chers amis auditeurs, vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro, l'émission francophone d'RBN, de Radio Londres-Amérique. Ce soir, je reçois au micro de Méridien Zéro Pascal Lassalle, qui est spécialiste des questions d'Europe orientale et particulièrement de l'Ukraine, sur laquelle il a été auteur de plusieurs articles. Il a également intervenu donnant plusieurs conférences sur ce sujet. Et vous pouvez retrouver évidemment sur internet en googlisant Pascal Lassalle Ukraine ses diverses interventions à ce sujet. Alors pourquoi cette émission sur l'Ukraine? Évidemment, il y a l'actualité qui nous dicte un petit peu aussi notre agenda. Il y a la visite du président Viktor Yanukovych à Paris, qui date donc d'avant-hier. Et à cette occasion, puisque nous avons quand même déjà à ce micro abordé plusieurs fois les questions d'Europe orientale et la question ukrainienne, mais comme en passant, nous avons fait le choix, pour vous auditeurs, d'en parler ce soir. Mais malgré tout, dans mon esprit, plein d'un doute. Pascal, quel est l'intérêt de parler aujourd'hui à nos auditeurs de l'Ukraine?
Alors, je pourrais vous rétorquer tout gros, pourquoi ne pas en parler? En fait, je pense qu'il y a plusieurs très bonnes raisons d'en parler. Première chose, tout d'abord, je pense que la plupart des auditeurs sont des Européens convaincus, ou en tout cas s'efforcent à travers les actes que dictés par leurs idées, leurs engagements, d'être de bons Européens. Et l'Ukraine est avant tout un pays européen, pleinement européen, par son histoire, par sa civilisation, par sa culture. Donc je crois que déjà, par curiosité à la fois intellectuelle et par esprit de découverte, en fin de compte, d'un peuple frère, d'un pays frère, je crois que c'est pas négligeable de s'y pencher. Maintenant, sur un autre plan, il y a d'autres raisons qui, selon moi, justifient que nous posions notre attention sur ce grand pays, qui, je le rappelle, en superficie, le plus grand pays d'Europe, mis à part la Russie d'Europe, bien sûr. Hein, si on prend, bien sûr, l'Europe dans son acception minimale de l'Atlantique à l'Oural. L'Ukraine, avant tout, sur un plan symbolique et mythique, c'est d'abord géographique, je dirais, c'est l'omphalos de l'Europe, c'est le centre de l'Europe. Hein. Les historiens autrichiens sous l'empire des Habsbourg avaient déterminé que le centre géographique de l'Europe, donc toujours pareil, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, si on reprend la limite orientale des monts Oural, se situe en Ukraine, dans les Carpates ukrainiennes, pas très loin d'ailleurs de la frontière hongroise, donc en fait au sud-ouest du pays. Deuxième intérêt, là, sur un plan plus historique et mythologique, concernant la question indo-européenne, et en particulier celle de l'Ur-Ahemat, c'est-à-dire le foyer originel, si on s'appuie sur une des thèses les plus plausibles, qui est la thèse de la lituanienne Maria Gimbutas, la thèse des Kourganes, le foyer originel se situerait pratiquement en Ukraine, une grande partie du territoire ukrainien, une partie du sud de la Russie, où seraient épanouis ces proto-indo-européens, et ainsi que de nombreux peuples indo-européens, comme je peut-être le signaler tout à l'heure. Dernier point, et là, bon, je crois qu'on va reprendre un petit peu les thématiques essentielles qui sont celles de l'émission concernant l'Ukraine, il s'agit de montrer que l'Ukraine est un petit peu un cas d'école. C'est un petit peu un paradigme, pour prendre le terme ronflant et scientifique, un modèle un petit peu interprétatif qui nous permet d'analyser plusieurs processus, plusieurs problématiques plutôt identitaires en cours aujourd'hui en Europe. Où il y a une conjonction de problématiques identitaires liées à l'histoire en particulier et aussi à l'action aujourd'hui du système oligarchique international, du système occidental, du système mondialiste et globalitaire donc dont nous sommes l'objet actuellement.
Oui, je crois que c'est des questions qui ont été d'ailleurs abordées lors des deux dernières émissions, à la fois celle sur l'Occident, mais aussi sur l'émission qui portait sur la Croatie, où nous avons interrogé Tomislav Sunic à ce micro.
Exactement, là on va voir qu'on va retrouver des analyses qui rejoignent, en fin de compte, cette problématique des pays de l'ère post-soviétique, mais on va voir que l'Ukraine amplifie encore certaines thématiques qui ne sont pas sans intérêt pour nous, et en tout cas peuvent être le reflet aujourd'hui de situations que nous vivons ou que nous sommes encore appelés à vivre de manière plus amplifiée, quoi, quelque part. Alors je crois que pour essayer d'éclairer nos lecteurs, il est d'abord nécessaire de faire un petit survol rapide de l'histoire ukrainienne, bon, sans être trop docte et professoral, hein, et sans rentrer trop dans trop les détails, mais donner quand même un panorama indicatif de ce qu'était l'Ukraine et les grands coups de projecteur sur les moments importants de son histoire, pour bien comprendre. En fait, là où je veux en venir, c'est que ce qui va caractériser une grande partie de l'histoire ukrainienne, c'est deux phénomènes que connaîtront d'autres pays d'Europe. Et là, je crois que les auditeurs, les mieux informés au sujet de l'histoire européenne pourront notamment se référer à titre comparatif à des cas comme l'histoire irlandaise, par exemple. En fait, le premier exemple, la première thématique, c'est celle des nations sans État. L'Ukraine appartient à une nation sans État, ce qu'on appelle communément une nation sans État. Donc, on est vraiment, bien sûr, à l'antithèse de ce que fut du cas français, ce que fut le cas français, c'est-à-dire la lente mais méthodique construction donc d'un État par la monarchie puis par la République, d'un État-nation. Là, on est au contraire dans ces nations sans État qui ont souvent été incluses dans des ensembles plus vastes, des ensembles de type impériaux, et dont la construction étatique a été contrariée. Contrariée, a été vraiment, chaotique, dans le meilleur des cas, et par les aléas du destin, à la fois par l'objet d'intervention extérieure, soit par aussi parfois les manquements et les faiblesses du peuple, des élites de ce peuple-là. J'en viens justement à la deuxième thématique. L'Ukraine aussi se caractérise, comme plusieurs pays, par un constant déficit d'élites. C'est-à-dire, pour reprendre le titre d'un ouvrage du sociologue américain Christopher Lash, il y a eu régulièrement en Ukraine une trahison des élites. Une trahison des aristocraties qui se sont acculturées au modèle dominateur et étranger du moment. Non. Le voisin, en particulier les deux puissances principales, la Pologne et la Russie. Alors, très rapidement,
venons-en à la naissance de l'Ukraine.
Voilà, le peuple ukrainien s'inscrit bien sûr dans la branche indo-européenne des Slaves orientaux. Les Slaves orientaux qui sont divisés en trois grandes branches, les grands Russiens qui donneront naissance à l'ethnos russe proprement dit, donc les Ukrainiens, et les Blancs Russiens, donc les Biélorussiens aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui différencie un petit peu ces trois grandes branches, dont la séparation s'est faite assez tard, c'est vraiment la plus tardive, c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, ça permet d'alimenter les historiographies, les mythologies nationales respectives, notamment la mythologie russe, historique russe, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc en fait, les Ukrainiens se différencient des autres par le fait qu'il y a eu aussi un mélange, une ethnogenèse avec des peuples qui avaient précédé les Slaves, qui étaient des peuples qui se rattachaient à l'ensemble iranien. Je pense notamment aux Scythes et aux Sarmates. Les proto-Slaves s'appelant les Antes dans cette ère-là. Donc il y a eu une sorte d'ethnogenèse entre les Slaves orientaux, les tribus anciennes des Ukrainiens, dont les Antes, avec ces populations guerrières, nomades et cavalières que furent les fascinants Scythes et Sarmates dans ces grandes plaines donc de l'Ukraine. Les Russes, eux, se distinguant par un apport important de type finno-ougrien tout d'abord et ensuite turco-mongol, dans la deuxième phase de leur histoire, et les Bélarussiens se différenciant également par une forte composante baltique qui a été assimilée linguistiquement à l'ensemble slave oriental. Donc c'est en gros ce qui différencie les trois grandes branches de la slavité orientale. Ces Ukrainiens, ils vont s'inscrire dans un grand état, une grande principauté assez lâche, qui avait son épicentre à Kiev. Donc, que l'on appelle fort incorrectement encore aujourd'hui de la plupart des ouvrages occidentaux et français, en particulier la Russie de Kiev, donc selon le schéma mythologique russe, c'est la première Russie. En fait, lorsqu'on essaie de voir les choses avec un peu de distance, le plus honnêtement possible, sans pour autant tomber peut-être dans les outrances inverses de l'historiographie ukrainienne, qui elle va affirmer que cette principauté de Kiev était un petit peu une sorte d'Ukraine avant la lettre, on est à des années-lumière, bien sûr, de l'ère des États-nations, donc c'est des anachronismes.
Oui.
On peut reconnaître que cet ensemble renfermait ceux qui deviendront plus tard les représentants de ces trois grandes nations slaves orientales. Mais cet ensemble était centré sur l'Ukraine actuelle et le peuple qui portait, l'épicentre de cet immense État, c'est la principauté de Kiev, qu'on appelle la Rus de Kiev, et qu'on devrait traduire par Ruthénie, étant donné que le terme latin employé pour qui est de Ruthéna, donc plutôt Ruthénie que Russie de Kiev, tandis que le terme Russie apparaîtra au XVIIIe siècle, c'est vraiment non seulement une incorrection, mais un anachronisme qui n'est pas dénué d'arrière-pensée politique, c'est évident, on pourrait y revenir tout à l'heure. Donc ce vaste État est centré autour de Kiev, et a des périphéries qui s'étendent jusqu'à la mer Baltique, et jusque presque l'Oural, donc avec notamment des villes comme Novgorod, ou alors les principautés de Vladimir Soudal. Moscou ne sera créée qu'au XIIe siècle.
Là, c'est jusqu'à de quelle époque à quelle
donc,
époque
là, en fait, on est avec, bien sûr, la théorie nordique de la venue de Vikings, de Vikings qui vont constituer les premiers souverains de cet ensemble. Bon, moi, je pense il y a les tenants d'une thèse normaniste qui renforce l'influence viking et ceux qui disent que c'est l'influence slave, c'est le substrat slave qui a été plus prépondérant. Moi, je pense que la vérité se situe entre les deux. Il y a eu des souverains vikings,
étrangers,
des souverains suédois, des russes.
Oui, c'est les vikings de Suède, sachant que les autres qu'on appelle les vikings, eux partaient plutôt à l'ouest.
Voilà, donc c'est des varègues, les fameux varègues, c'est des guerriers marchands. Et en fait, bon, je pense que la vérité un petit peu entre les deux, c'est ces varègues sont très vite assimilés et ils ont constitué donc les premiers représentants des dynasties, donc à la fois au début légendaire et ensuite avérés comme notamment le prince Yatoslav et surtout le prince Vladimir Volodymyr pour les Ukrainiens, qui sera le premier qui va christianiser donc cette vaste principauté en 988, christianiser avec le christianisme type byzantin, qui deviendra orthodoxe après le schisme et la séparation de 1054 entre l'Église catholique et la future Église orthodoxe. Voilà, donc c'est ça. En fait, ce vaste ensemble de type proto-féodal, c'est pas tout à fait un ensemble féodal, c'est à base d'apanage, mais c'était un État assez lâche, qui n'était pas très centralisé, mais qui était totalement européen dans les sociétés, c'est-à-dire que les princes de Kiev, notamment Yaroslav le Sage, Yaroslav Moudry, qui est un descendant de Vladimir, vont marier leurs enfants à toutes les cours d'Europe. Donc en fait, ce premier État slave oriental est connecté totalement à l'histoire européenne et à l'histoire
de
plein pied totalement. D'ailleurs, le roi de France Louis VII épouse une princesse de Kiev, la fameuse Anne, qui elle savait lire et écrire, à la différence de son mari.
Comme le rappelle une fois un peu avec malice. On peut d'ailleurs trouver une très belle biographie de cette reine qui est parue il y a quelques années maintenant, dont l'auteur m'échappe.
Jacqueline d'Orsoy, je la trouve moyenne, mais bon.
Bon, en tout cas, c'est un personnage qui est très, très intéressant, qui est un témoignage de cette insertion de cette Ukraine.
Voilà, de lien très ancien entre la proto-Ukraine, on va dire en tout cas, cette Ruthénie de Kiev qui se rattache quand même à l'histoire ukrainienne, c'est évident.
On parle d'une zone, on parle d'une zone géographique et de son devenir.
Voilà, d'ailleurs, je précise que le terme Ukraine apparaît beaucoup plus tôt qu'on ne le dit, en 1887, pour la première fois dans les chroniques, et signifie un petit peu la périphérie de Kiev, les principautés périphériques de Kiev, notamment Tchernihiv et Pereyaslav. Bon, je ne vais pas rentrer trop à détail au risque de fatiguer les lecteurs. Donc, la première rupture avec cette construction étatique, c'est l'invasion mongole. Les Mongols mongoles, quand les Mongols donc prennent Kiev en 1240, et en fait là il va y avoir un double mouvement. En fait, ce sont les principautés nordiques de cet État qui vont être occupées, qui vont subir l'occupation la plus longue, la plus dure, et qui va les marquer durablement à la fois au niveau politique et au niveau surtout psychologique. Et ce sont de ces principautés du Nord que va naître plus tard l'une d'entre elles qui, sous la férule des Han Tatars, les Han Mongols, notamment la Horde d'Or, va prendre un petit peu l'ascendant sur les autres, c'est la principauté de Moscou. Cet État qui viendra assujettir toutes les principautés voisines. Mais les territoires actuellement ukrainiens, donc en fait le centre de gravité de cet État de Kiev va se déplacer à l'ouest, dans la principauté du Galicie-Volhynie, dont un des princes sera reconnu roi par le pape. À la fin du 14e siècle, si ma mémoire ne m'abuse pas. Le problème de cet état de Volhynie-Galicie, c'est qu'il va tomber entre les mains de puissances voisines, dont la Galicie deviendra polonaise, et le reste du territoire ukrainien compliqué tombera entre les mains des princes lituaniens.
Mais là, il faut rappeler qu'à cette époque, les royaumes polonais et lituaniens sont des puissances européennes importantes, qui occupent toute une bande qui va justement de la Lituanie jusqu'au sud de l'Europe, en fait.
Oui, ben, en fait, le dessin lituanien, on pourra en parler un jour dans une émission, c'est quand même fascinant, c'est un tout petit peuple qui reste italien, un peuple guerrier, qui est presque insignifiant démographiquement, mais qui va créer un immense état, jusqu'à la mer Noire, pratiquement, le grand duché de Lituanie. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que rapportent les historiens ukrainiens, cet état, en fait, n'est lituanien que nominalement. Les souverains sont lituaniens, mais l'ensemble de l'aristocratie et des grands cadres de l'État sont ruthènes. C'est-à-dire les ancêtres à la fois des Ukrainiens et des Biélorusses actuels. La langue parlée, d'ailleurs, est l'ancêtre des langues bélarussiennes et ukrainiennes actuelles. Donc, en fait, c'est un État de facto slave, oriental, mais qui ne subit pas la domination des Mongols et qui reste souché à l'assimilation européenne occidentale. Notamment, bon, on parlait sur le plan religieux, même aussi on est dans l'église orthodoxe, on est quand même, on le voit aussi dans l'armée militaire, par exemple, dans les équipements, on est vraiment souché, il reste souché à l'Europe occidentale, alors que les principautés, la principauté de Moscou et les pays extérieurs, elles sont, connaissent la nuit de l'occupation mongole, hein. Bon, je veux partager l'opinion des historiens eurasistes qui voient le phénomène mongol comme un phénomène positif. Là, il y a une rupture fondamentale avec des moments civilisationnels importants que le reste des puissances européennes vont connaître.
On voit déjà l'allégeance de cette aristocratie ukrainienne à une puissance, disons, nominalement étrangère.
Ça se passe relativement bien sous les Lituaniens. Le problème, c'est qu'ensuite, Polonais et Lituaniens vont s'unir.
Voilà, le royaume polonais.
Ils vont s'unir dynastiquement, et c'est ensuite qu'ils vont s'unir structurellement. Et là, en fait, cette union polono-lituanienne va bénéficier avant tout aux Polonais. Et là, les Polonais vont jouer une autre carte, c'est-à-dire une carte, on pourrait dire presque, si je pouvais risquer ce semi-anachronisme jacobine à la lettre, c'est-à-dire qu'ils vont demander à ce que les aristocraties slaves, et proto-ukrainiennes en particulier, se convertissent au catholicisme, alors qu'elles étaient orthodoxes, et surtout se polonisent. Et là, bon, il y a, pour faire carrière, bien sûr, ben, énormément de familles aristocratiques ukrainiennes vont se poloniser.
Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a la logique de la cour, de toute façon, pour parler, on parle la langue de son maître, donc il y a des logiques curiales qui, sans doute, ont conduit.
Exactement, mais les Polonais l'ont exigé alors que les Lituaniens ne l'avaient pas fait. Donc là, on est dans déjà de ce premier exemple donc des trahisons des élites de l'aristocratie, c'est-à-dire qu'en fait, ben, le peuple ukrainien, c'est le premier phénomène qu'on va voir qui va durer jusqu'au XXe siècle, c'est que l'identité ukrainienne va se cristalliser dans la paysannerie, avec des avantages et des inconvénients. Dans la paysannerie, vous savez, c'est un monde souvent immobile, c'est un monde
mémoriel,
qui est un conservatoire, mais à côté de ça, mais qui ne peut se projeter parfois dans une démarche d'avenir, et puis avec, bon, voilà, les cadres qui doivent être les leurs, et notamment les cadres aristocratiques à l'époque. Donc on a ce premier phénomène. Donc en fait, l'Ukraine la majorité partie de l'Ukraine devient possession du royaume de Pologne-Lituanie, ce qu'on appelle la Rzeczpospolita, la République nobiliaire polonaise, hein, qui se caractérisait souvent par une instabilité politique, hein, vu son mode de fonctionnement, mais je ne rentre pas dans les détails. Et c'est surtout à partir du XVIe siècle que les territoires ukrainiens vont devenir un enjeu entre la Pologne-Lituanie, et une nouvelle puissance qui apparaît et qui prend donc une certaine importance dans la région, c'est la principauté de Moscovie. Dans la principauté de Moscovie, qui a récupéré l'héritage byzantin et l'héritage tatar sur le plan politique, avec un césaropapisme, avec bon la récupération du titre de tsar, hein, ces princes de Moscou qui récupèrent le titre de tsar hérité de Byzance, exercent un pouvoir sur un mode asiatique, de despotisme asiatique, ou une sorte d'autoritarisme patrimonial, hein, où tout est possession du souverain, que ce soit la noblesse, les boyards ou l'ensemble de la terre. Donc les territoires ukrainiens vont être l'objet d'une lutte entre les Polonais et les Russes. Et c'est un événement, coup de projecteur sur un événement important de l'histoire ukrainienne et aussi de l'histoire russe, c'est un traité qui a lieu en 1654, le fameux traité de Pereyaslav, où les Cosaques ukrainiens, qui s'étaient, parce qu'il faut préciser, mais je pense que la Cosaquerie était née d'abord en Ukraine, les fameux Cosaques, ces guerriers libres, un petit peu, des steppes, servaient de mercenaires pour les Polonais et luttaient contre l'Empire ottoman du Sud, dans la puissance musulmane du Sud, allant jusqu'à faire des raids à Byzance, sur leurs petites embarcations, les Kalkas. Donc ces Cosaques polonais se révoltent contre, ces Cosaques ukrainiens, petit lapsus, c'est la fatigue, se révoltent contre le roi de Pologne. Et en cela, ils vont se chercher un allié. Et ils vont faire jouer la solidarité religieuse avec les frères, enfin les frères entre guillemets, la principauté orthodoxe de Moscou. Et là, c'est à l'origine, cet événement, ce traité d'alliance, est à l'origine d'un formidable malentendu qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui quant à son interprétation entre les historiens russes et ukrainiens. Les Ukrainiens, en fin de compte, disent que ce traité n'était qu'une sorte de traité d'une alliance
de circonstances.
Oui, de circonstances, c'est une vassalique, où le tsar russe, Alexis Ier, s'engageait à respecter les libertés cosaques,
bien sûr.
Les autonomies cosaques. Voilà, d'un État qui resterait autonome, qui serait sous protection, une sorte de protectorat, en fait. Alors que, dans sa conception absolutiste, le tsar n'entend pas ainsi. Se mettre sous la position du tsar, c'est-à-dire reconnaître son autorité. Et rentrer de facto au sein de l'Empire russe en gestation, en tout cas de la principauté de Moscovie, qui, à l'époque, s'étend vers l'Est, vers les familles sibériennes, notamment les actions des frères Sodanov, du Cosaque Yermak, etc., etc. Et ça, c'était sous Ivan IV, dit le terrible. Voilà. Donc, en fait, là, on a l'Ukraine qui va être coupée, partagée, entre au niveau du grand fleuve qui est un petit peu la colonne de l'Ukraine, le Dnipro en ukrainien, au niveau de Kiev, donc entre l'Est qui sera sous domination russe, et petit à petit, les souverains russes vont rogner les libertés ukrainiennes jusqu'à vouloir assimiler l'Ukraine sur un mode centralisateur et russificateur, sous Pierre le Grand notamment, qui sera un grand massacreur de Cosaques, et dont d'ailleurs les os de dizaines de milliers de Cosaques reposent sous les bords de la Neva, parce qu'ils ont servi de main d'œuvre pour construire sa nouvelle capitale, sa fenêtre sur l'Europe, Saint-Pétersbourg. Ça, souvent, on l'ignore. C'est vrai que lorsque les Ukrainiens parlent de Saint-Pétersbourg, les plus conscients, ça ne leur rappelle pas forcément de bons souvenirs. Et deuxième figure de l'histoire russe qui aussi n'a pas forcément une très bonne presse en Ukraine, c'est Catherine la Grande. Catherine II, Catherine Anna Zverts, cette princesse allemande devenue plus russe que les Russes, elle aussi va détruire définitivement l'île qui servait de quartier général à ses confréries cosaques, la fameuse Sich cosaque, et va exiler les cosaques dans le Kouban voisin, donc au pied du Caucase, où leurs descendants reposent aujourd'hui. Donc en fait, les Russes mettent en place une politique d'assimilation et de russification, très rapidement à considérer les Ukrainiens comme une catégorie provinciale de l'ethnos russe. Et en les dénommant d'ailleurs, en interdisant la dénomination d'Ukrainiens, en les qualifiant de petits Russes. Malorossi. La Morossi, la petite Russie. Alors que en Pologne, c'est aussi le même phénomène. Donc, dans la partie polonaise, c'est l'aristocratie polonaise qui domine. Ils ont des propriétés jusque dans la région de Kiev et ils asservissent une paysannerie ukrainienne, donc sur un mode de servage qui est encore largement répandu en Europe orientale.
Et qui là, cette situation, évidemment, ne touche pas à l'identité. Je dirais que ce fait le paysan ukrainien l'idée que le paysan ukrainien se fait de ce qu'il est, de lui-même, mais comme tu le disais, cette paysannerie est un conservatoire de cette identité ukrainienne, mais là on voit cette Ukraine partagée entre deux puissances étrangères.
Et ensuite, avec le partage de la Pologne de la fin du XVIIIe siècle, les territoires ukrainiens seront partagés entre deux grands empires. L'Empire russe, l'Empire des Tsars et l'Empire austro-hongrois, pour la partie occidentale, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine occidentale. Et ce partage va être déterminant. Pourquoi ? Très rapidement, les Ukrainiens vont connaître le réveil du nationalisme en Europe, donc le romantisme d'abord sous la forme du romantisme et ensuite sous la forme d'émergence de timides d'élites, en tout cas d'élites littéraires et parfois politiques. D'abord en Russie, mais la répression va être tellement forte en Russie, notamment avec différents zoukas, c'est-à-dire des décrets, qui pour interdire toute forme d'expression de la langue ukrainienne, une répression féroce, notamment dont sera logée une des icônes aujourd'hui littéraires et patriotiques de l'Ukraine actuelle, le grand poète Taras Shevchenko. Donc l'Ukraine est l'enjeu entre de politique d'assimilation et surtout d'une russification intense au XIXe siècle, et c'est paradoxalement, c'est dans l'Ukraine de l'Ouest va devenir un piémont de la renaissance culturelle et nationale ukrainienne.
Donc des partis sous contrôle autrichien.
Voilà, de la partie autrichienne, qui est beaucoup plus libérale,
qui est beaucoup plus fédéraliste dans l'esprit.
Oui, c'est un peu ambigu, c'est-à-dire qu'on fait de la partie autrichienne, c'est les Polonais qui dominent toutes les sphères sociales, mais on laisse une faculté de s'exprimer à une timide bourgeoisie et aristocratie ukrainienne qui demeure, alors qu'en Russie, elle est totalement assimilée. et réprimer si jamais elle montre des velléités de se prétendre ukrainienne.
Ben là, on voit bien quand même deux modes de gouvernement d'une minorité nationale quand même.
Exactement, oui,
le lutte oriental.
En Autriche, encore aujourd'hui, notamment les Ukrainiens de l'Ouest, ne gardent pas forcément un mauvais souvenir de l'époque autrichienne. Notamment, vous savez que l'Empire d'Azur était connu pour l'efficacité et l'honnêteté proverbiale de son administration. Il y a encore quelques petits restes, bon, même timides, à l'Ouest. Donc très rapidement, Première Guerre mondiale, donc des Ukrainiens combattent dans des camps différents, tentative timide d'émergence d'un État indépendant ukrainien en 1918, la République populaire, avec union de la partie qui était russe et de la partie qui était autrichienne, mais cette brève indépendance ne dure pas, elle tombe sur les coups du boutoir, à la fois des bolcheviks et de l'armée rouge de Trotsky, et à la fois coup de boutoir des Polonais. Donc les territoires ukrainiens vont se retrouver partagés au lendemain de la Première Guerre mondiale entre quatre puissances, l'Union soviétique, une bonne partie de l'Ukraine centrale, orientale et du sud, la Pologne, donc la partie occidentale, la Volhynie, la Galicie, l'État artificiel de Tchécoslovaquie avec la partie des Carpates, la Virginie subcarpatique et la Bucovine du Nord à la Roumanie. Dans l'entre-deux-guerres, un fort mouvement nationaliste apparaît en Ukraine. On pourrait faire une comparaison qui serait pas privée de sens entre l'IRA irlandaise et l'Organisation des nationalistes ukrainiens qui apparaît en 1929 de l'unification de plusieurs mouvements et qui va lutter pour l'avènement d'un État ukrainien. Donc on est à l'époque aussi des régimes autoritaires, donc là on est vraiment dans une vision ethnique, un État autoritaire, vu par une élite militante, une élite nationaliste, une sorte de chevalerie au service de l'État ukrainien. Donc ces nationalistes ukrainiens vont surtout lutter contre les Polonais, qui pratiquent une politique d'assimilation très dure, notamment la politique de pacification, en commettant des attentats terroristes, etc., etc. Une nation culturelle extrêmement importante. En Union soviétique, c'est beaucoup plus dur. Ce qui fait que, et là on retrouve aussi une constante de l'histoire ukrainienne, c'est les dilemmes qui vont se poser quant aux alliances à contracter lorsque des conflits vont opposer les différents pays qui opprimaient le peuple ukrainien. Et la Seconde Guerre mondiale ne va pas faire exception.
Oui, bien sûr.
Les Ukrainiens vont beaucoup espérer, dans un premier temps, des puissances de l'Axe, et en particulier de l'Allemagne. Et là, bon, c'est l'occasion aujourd'hui de mythologie diabolisante.
On peut dire que
ils sont toujours en vigueur, je pourrais en reparler tout à l'heure, notamment entretenu aujourd'hui encore par les Russes, pour des raisons purement politiques.
On va y revenir sur ça, mais disons que le cas est comparable avec un peu ce qui se passait en Finlande, c'est-à-dire qu'il y avait une tyrannie rouge.
On peut comparer avec le Polonais Piłsudski, qui a collaboré d'abord avec les forces allemandes et autrichiennes pendant la Première Guerre mondiale. On peut comparer avec le patriote irlandais d'origine anglaise, d'ailleurs Sir Roger Casement, qui est allé chercher des armes en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Donc en fait, il faut déconnecter cet espoir d'assistance des Ukrainiens de la part d'un pays comme l'Allemagne et des raisons idéologiques. La Révolution nationale ukrainienne n'avait pas d'acquaintance idéologique avec les nazis.
Voilà. Pas plus que les résistants finlandais n'en avaient pas.
Exactement.
Plus.
Donc là, c'est avant tout un calcul politique risqué, mais un calcul, bon, un dilemme surtout. Donc on attend beaucoup des Allemands. En fait, les Allemands, l'Ukraine, Hitler et son entourage, bon.
On mal mesuré, je crois, les profits politiques qu'ils pouvaient tirer de ce nationalisme ukrainien, visiblement.
Oui, bon, mais Hitler ne voulait pas entendre parler de nationalisme ukrainien. Pour Hitler, les Ukrainiens étaient des sous-hommes slaves, dont le territoire, véritable grenier à blé, avec les fameuses terres noires du Tchernozem, était avant tout destiné à devenir des colonies. Des terres colonisées par la race des seigneurs allemandes. Par contre, il y avait dans l'entourage nazi, notamment autour d'Alfred Rosenberg, l'idéologue Alfred Rosenberg, certains cénacles qui étaient, Rosenberg étant lui-même d'origine originaire du Balticum, des Pays-Baltes, étaient plus favorables justement à une alliance, à une reconnaissance de ces nations étaient opprimées par les soviétiques.
À la décharge des Ukrainiens, je voudrais juste rappeler à nos auditeurs qu'il faut se souvenir un peu de ce qu'avait pu être dans les années 30 déjà le massacre par la famine organisé par Staline. Enfin, la répression, enfin la sauvagerie avec laquelle
effectivement. Monsieur Kerr, vous avez tout à fait raison, les Ukrainiens ont été l'objet de massacres répétés de la part du régime totalitaire soviétique, et en particulier de la fameuse famine génocide de 1932-1933 qui s'appelle le Holodomor, c'est-à-dire l'extermination par la faim, et dont il est avéré aujourd'hui, malgré les dénégations russes toujours actuelles, qu'elle visait les Ukrainiens en tant que tels. Étant donné que les Ukrainiens restaient attachés à la fois à une conception plus individualiste de la propriété privée, c'était le cas des paysans, et surtout partisans indécotables nationalistes, attachés à l'identité de leur pays et la construction d'un État. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, les Ukrainiens vont très rapidement être déçus par les Allemands. Les principaux chefs nationalistes seront emprisonnés après avoir proclamé un État ukrainien indépendant en juin 1931 à Lviv sans avoir demandé l'autorisation des Allemands. Et les Ukrainiens vont être à l'origine de la naissance d'un phénomène assez fascinant quelque part, une résistance nationaliste qui va lutter à la fois contre les nazis et les soviétiques, ainsi que contre les Polonais, pour les raisons Et en fait, donc, une sorte de troisième voie, géopolitique. Et cette résistance nationaliste, donc, qu'on appelait l'UPA, l'armée insurrectionnelle ukrainienne, ou Ukrainska Povstanka Armia, va lutter jusqu'au début des années 50.
Mais on va justement peut-être passer à la pause musicale. C'est votre choix, je crois. Il s'agit d'un groupe ukrainien.
Alors, c'est un chanteur populaire ukrainien du Kremlin de l'Ouest, s'appelle Taras Chubaï, qui a sorti un album qui s'appelle Nashi Partizan, c'est-à-dire Nos Partisans. C'est un chant de partisans justement de l'UPA. Le morceau s'appelle Lenta za Lentoyo, c'est-à-dire bande après bande, bande de mitrailleuse, donc un chant de guerrier. On écoute.
Вечоріє, повстанське серце б'є, а лента на бої посвітно подає, а лента за лентою на бої подавай. Країнські повстанці в бою не вступай, а лента за лентою на бої подавай. Країнські повстанці в бою не вступай, а Бог атакує і пресвятих сил, юнак кулеметник їх правно спасив. Ах, лента за лентою на бої подавай, країнські повстанці в бою не вступай. Ах, лента за лентою на бої подавай, країнські повстанці в бою не вступай. Як сонце сходило, втомлений юнак, упав він ранений, упав він навзнак. Ах, лента за лентою на бої подавай, країнські повстанці в бою не вступай. Ах, лента за лентою на бої подавай, країнські повстанці в бою не вступай. Санітарка постійно йде, в обличчя вдивляєш, його впізнає. Ах, лента за лентою на бої подавай, українські повстанці.
лента, за лентою на бой подавай. Країнці повстанці, бою не відступай. Ах, лента, за лентою на бой подавай. Країнці повстанці, бою не відступай.
Donc nous venons d'écouter ce chant des partisans ukrainiens de Loupa, donc ce mouvement nationaliste à la fois luttant contre les Allemands, contre le nazisme, contre le soviétique et contre les Polonais.
Surtout à partir de 1944, ils luttent principalement contre les soviétiques, ils seront pratiquement abandonnés de tous. Hein. Il y aura quelques parachutages mais de la part de l'Occident, mais très faibles. Et les derniers partisans de Loupa cesseront toute lutte armée en 1955-56.
C'est très tard.
Ce qui est très tard. Hein. Leur chef charismatique, Roman Shurevich, de son nom de guerre, Taras Shupinka, a été tué en 1950. Donc c'est la lutte armée cessera en Ukraine. Bon, l'Ukraine a été les principaux territoires ukrainiens ont été réunifiés par les soviétiques à l'égide de Staline, hein, qui a récupéré donc les territoires anciennement polonais, roumains et tchèques pour pratiquement créer aujourd'hui les frontières de l'Ukraine actuelle. Donc l'Ukraine actuelle, donc qui va devenir une république socialiste soviétique, qui va recevoir en 1954 de la part de Khrushchev, Nikita Khrushchev, le premier secrétaire du Parti communiste non soviétique d'origine ukrainienne, un cadeau empoisonné qui aujourd'hui pose problème, la Crimée, hein, bon, qui est rattaché formellement à l'époque, mais lorsque l'Ukraine va devenir indépendante dans le processus d'éclatement de l'Union soviétique en 1991, ben là, l'Ukraine va garder ses frontières administratives de l'époque soviétique. Il faut savoir que cette indépendance, c'est un peu une indépendance par défaut, hein, pour reprendre le terme qu'on a employé pour la Croatie dans l'ouvrage de Tomislav Sonic. Beaucoup de politiques ukrainiens disent que peut-être l'Ukraine aurait peut-être dû avoir une guerre de libération qui aurait consolidé une conscience nationale, comme c'était le cas en Irlande. Ça n'a pas été le cas, c'est une indépendance presque subi, qui est arrivé un peu comme cheveux sur la soupe, et qui va poser problème. Et je crois que les auditeurs peuvent commencer à comprendre pourquoi aujourd'hui on peut dire que l'Ukraine est un pays fragmenté. Hein. C'est une nation inachevée, c'est-à-dire que c'est une nation qui n'a pas atteint encore un stade de développement à la fois d'une conscience nationale identitaire unifiée sur l'ensemble du territoire ukrainien, et surtout d'un État digne de ce nom. Indéniablement, à la fois pour ses raisons historiques, pour des raisons aussi, il faut être honnête, hein, connaissant un petit peu le pays, qui tiennent un peu la mentalité ukrainienne. Hein. Bon, pour faire simple, les Ukrainiens, c'est un petit peu les Italiens du Sud de l'Est. Quoi, hein. Ils en ont les qualités et les défauts. Il y a beaucoup de points communs entre les mentalités
humaines et peu d'ordre.
Ah voilà, c'est pas un peuple qui a un grand sens de l'État et du collectif. Hein. Enfin, quand je dis du collectif, c'est de l'esprit public, du bien public, voilà. Et surtout, bon, le problème, c'est qu'en Ukraine, là, on va revenir systématiquement, le collectif, ça évoque surtout, bon, l'idéologie soviétique, dont on sait tout le mal qu'elle a pu causer. Alors, c'est pour cela qu'on comprend aujourd'hui, souvent, on parle d'une Ukraine coupée en deux, d'une Ukraine fracturée, et c'est vrai que les derniers scrutins, notamment à l'époque de la Révolution Orange, et les derniers scrutins au début de l'année, ont montré qu'il y a effectivement deux Ukraines votent différemment, deux Ukraines ont des mémoires différentes, deux Ukraines ont presque des identités différentes. À quoi cela est dû? Cela est dû, bon, à ces trois fractures identitaires les deux premières fractures identitaires que je signalais au début d'émission. Mais tout d'abord, le fait que l'Ukraine a été un État qui a subi une situation de type colonial. Je sais que ça va faire hérisser éventuellement des Russes qui nous écoutent, ou en tout cas les partisans de la Grande Russie qui nous écoutent, mais pour moi c'est un fait qui est avéré, hein, qui est objectivement vérifiable. Elle a subi une domination de type colonial avec tout ce que cela suppose. Et le gros problème aujourd'hui de l'Ukraine, ce sont pas les Russes. Enfin, ce ne sont pas les Russes, à la base. Le gros problème de l'Ukraine, c'est cette grande partie de la population ukrainienne qui a un non-ensemble identitaire, c'est-à-dire qu'en fait, cette partie a intériorisé le stéréotype négatif la concernant. C'est-à-dire, se réclamer ukrainien, parler ukrainien, c'est parler une langue sous-développée, de plouc, de pays russe inculte, alors que parler russe à l'habitant en ville, c'est accéder à la civilisation. Voilà, grosso modo, un petit peu d'ailleurs, le processus était produit dans nos provinces, en France, ouais, voilà, avec la dévalorisation des patois, du monde paysan, etc. Mais aujourd'hui, le drame, c'est que ces autostéréotypes négatifs sont partagés par une grande partie des Ukrainiens, pour qui tout Ukrainien conscient le renvoie en fin de compte à ce traumatisme, et un peu sa mauvaise conscience. C'est pour cela que, d'ailleurs, un universitaire anglais avait parlé du nationalisme ukrainien comme de la foi d'une minorité. Et c'est paradoxal. Alors que l'Ukraine est en droit international et indépendant. En fait, non. C'est un pays qui est formellement indépendant, sur une manière, mais surtout qui a acquis formellement une identité propre. Hein. Aujourd'hui, bon, ben, l'Ukrainien est parlé au quotidien par une légère minorité de la population. On peut chiffrer, les chiffres sont toujours approximatifs, mais les ukrainophones ne représentent qu'environ 40-45% de la population. Et surtout, alors que l'Ukraine est en droit la seule langue officielle, elle est minoritaire dans son propre pays. Pas au même point que le gaélique en Irlande, par exemple, mais un point qui peut faire craindre, bon, ben, en tout cas, une stagnation, dans le meilleur des cas, de cette situation. Donc on est vraiment au milieu d'une fracture intérieure qui sépare des Ukrainiens conscients, principalement situés à l'ouest, justement l'Ukraine de l'ouest, sous la domination autrichienne et polonaise, a mieux préservé son identité, a été l'objet d'une moindre répression qu'à l'époque, que dans la partie russe, puis plus tard soviétique. Et ensuite, bon, entre ces Ukrainiens russifiés, dont ils ne savent pas s'ils sont de Donetsk, de Lipopetrovsk, donc une identité locale, une identité non soviétique, on a une sorte de flou artistique et les différences en âge montrent que chaque fois, il y a cette difficulté à s'identifier.
Oui, alors on voit bien qu'il y a la strate russe qui a été plus dure que la strate de domination polono-autrichienne. Mais il y a également le problème du soviétisme là, voilà. Qui s'ajoute.
Alors, pour terminer avec la strate russe, comme vous le formulez, ben, le gros problème aujourd'hui, c'est que ben, l'Ukraine est voisine du grand frère russe, et aujourd'hui, on a un État russe donc, qui redresse sa tête, qui retrouve la puissance à laquelle il considère légitimement aspirer, mais qui, à mon sens, repose problématiquement son identité sur la négation du fait ukrainien. C'est-à-dire que pour les Russes, les Ukrainiens font partie de leur histoire. Il n'y a pas d'Ukraine en tant que telle, en tant qu'ethnos, proche certes, mais différencié. Et ça, pour moi, je pense que ça pose un gros problème, un problème qui restera, si vous voulez, une épine permanente dans le pied de l'ours russe, tant que les Russes n'auront pas été capables de faire une sorte de révolution culturelle radicale concernant leur mythologie identitaire.
Mais justement, les Russes eux-mêmes sont frappés de très gros problèmes. Quant à leur définition, même il n'y a pas deux Russes pour se mettre d'accord sur ce qu'est la Russie. Est-elle asiatique? Est-elle eurasiatique? Est-elle européenne? Est-elle occidentale? Voilà, il y a plusieurs.
C'est vrai qu'à ce niveau-là, bon, concernant l'Ukraine et la Russie, pour l'Ukraine c'est beaucoup plus clair. L'appartenance de l'Ukraine à la sphère civilisationnelle européenne est pratiquement discutable. Or pour la Russie, eux-mêmes se posent encore la question. Et ils oscillent. En permanence, que ce soit à l'époque soviétique ou que ce soit aujourd'hui.
Et finalement, l'Ukraine les renvoie à cette question identitaire. Exactement. Irrésolue pour les Russes.
L'Ukraine est une question existentielle pour la Russie. C'est pour cela que même, il y a un proverbe ukrainien qui dit que la démocratie russe s'arrête aux frontières de l'Ukraine. C'est-à-dire que même le pire des libérales va prôner une Russie qui intègre l'Ukraine d'une manière ou d'une autre. Alors, la deuxième strate, bien sûr, qui pose problème d'identité ukrainienne, c'est l'homo soviéticus. L'homo soviéticus est plus que présent, plus que jamais présent en Ukraine, avec tout ce que ça implique, cynisme, amoralisme, un phénomène hallucinant de contre-sélection biologique, hein, parce que bon, les élites ont été exterminées. De toute manière, il y a eu aussi, bon, une extinction biologique radicale d'une bonne partie de la touche paysanne, et ça laisse des marques. Donc, cynisme, survie, repli sur la sphère personnelle,
débrouille,
ou plutôt la débrouillardise du système
oui.
De la chapardise. La chapardise, fronder les autorités, toutes les lois, enfin, ces phénomènes profondément négatifs relatifs à l'homosoviéticus sont plus que jamais présents en Ukraine, et moi je peux le constater régulièrement lorsque je vais là-bas. Et ça hérite un petit peu l'Européen que je suis. Bon, le Français, bon... Nous, on a quand même, bon, c'est vrai, quelques respects qui héritent notre histoire, notamment dans certains sens de l'État, en tout cas, bon, il se présente. Et c'est vrai que là, on voit des fois des scènes qui nous hérissent, hein. Bon, que j'avais un petit peu du mal à comprendre au début, que j'arrive mieux à expliquer aujourd'hui, que je peux même comprendre, sans pour autant, bien sûr, les accepter, quoi, à mon fond intérieur. Donc, on a cette présence de l'homo soviéticus qui fait qu'aujourd'hui, bon, ben, on a un peuple qui oscille entre désintérêt pour le politique ou fatalisme. Pas aussi prononcé qu'en Russie, malgré les petits surcoûts qu'on a pu voir, notamment lors de cette fameuse révolution orange. Troisième phénomène, bien sûr, qui s'accélère vertigineusement dans les pays de l'Est depuis la chute du pacte de Varsovie et du système communiste, c'est bien sûr l'occidentalisation croissante. Et là, effectivement, on voit que le communisme a préparé l'avènement du capitalisme sauvage. On peut dire que le capitalisme est le stade suprême du communisme, quelque part. Ça se vérifie plus que jamais en Ukraine. En fin de compte, on n'a plus les digues, les cadres que pouvaient générer des élites encore enracinées pour préserver la population de l'afflux d'une consommation ostentatoire qui se conjugue donc voilà de manière excessive. Et moi, c'est vrai que ça fait plus de 5 ans que je vais en Ukraine et je vois que les petites boutiques attachantes de la petite ville provinciale où je vais ont été remplacées aujourd'hui par des magasins de chaussures de sport et de téléphonie mobile en l'espace de 1 ou 2 ans. On le voit aussi dans le comportement des jeunes, etc. C'est assez hallucinant. Ça ne veut pas dire que le combat a perdu d'avance. Il y a des commencements des réactions qui se font.
Très heureuse expression que vous avez eue là, le capitalisme au statut fin du communisme. Mais on voit que c'est le cas au même au niveau mondial avec la Chine comme paradigme de tout ça. Vous avez très brillamment parlé de tout ça lors de la dernière émission. Où en est aujourd'hui la jeunesse ukrainienne justement dans son état d'avancement d'occidentalisation?
La jeunesse ukrainienne nourrit largement encore beaucoup d'espoir pour l'Occident. L'Occident, c'est alerte à Malibu. C'est vraiment l'Occident fantasmé, comme Tommy Slavini l'avait dit très justement à propos du cap croate. On retrouve le même phénomène. Mais avec une petite nuance, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a une très grosse immigration de travail ukrainienne, notamment en Ukraine de l'Ouest. Et lorsqu'ils reviennent en Ukraine, ils commencent à montrer que l'Occident n'est pas aussi aussi paradisiaque qu'on l'avait rêvé pendant l'ère soviétique. Il commence à avoir tout doucement des prises de conscience, notamment à travers ce phénomène des nationalistes radicaux ukrainiens, dont j'avais touché un petit mot il y a de cela quelques émissions. Très rapidement, pour définir aujourd'hui le pouvoir en Ukraine, vous savez que le pouvoir orange a été débarqué aux dernières élections présidentielles, au début de l'année, par le retour du méchant, entre guillemets, donc le politicien de Donetsk, donc l'Ukraine orientale, Viktor Yanukovych. Donc en fait, comment peut-on aujourd'hui qualifier le système ukrainien? C'est une oligarchie de clan, clanique. C'est une oligarchie de l'Est, néo-soviétique mentalement, qui confisque le pouvoir. Et qui est en train, très rapidement, un peu trop maladroitement presque je dirais, mais il profite aujourd'hui de l'état d'hébétude du peuple ukrainien, en train d'installer une verticale de pouvoir calquée sur le modèle russe.
D'accord.
Mais en faisant la chasse, notamment sur le plan identitaire et historiographique, à tout ce qui peut rappeler l'Ukraine consciente et indépendante. On le voit avec la nomination d'un ministre de l'éducation nationale qui est notoirement ukrainophobe et qui ne cesse d'insulter les Ukrainiens de l'Ouest comme de méchants nationalistes, antisémites.
Oui, on voit bien que l'antifasciste d'ailleurs est ressorti de Sadin Staline pour servir à cette propagande en fait.
L'antifascisme diabolisateur qui a d'ailleurs été inventé par Staline, plus que jamais utilisé à la fois par les élites ukrainiennes pro-russes, on va dire, ou russifiées, ainsi que le pouvoir russe actuel. D'ailleurs, je signale au passage, mais je reviens en reparler, que ça ne provoque pas de sursaut d'indignation de la part des laudateurs, des russolâtres, grands admirateurs du fameux Poutine Medvedev. Là,
absolument.
Je pense qu'on devrait quand même ne pas abonder dans ce sens lorsque les Russes utilisent ces grosses ficelles qui nous ont fait nous tant de mal.
C'est cousu de fil blanc
totalement, mais c'est avec le cynisme des délits pratiques hérités de l'époque soviétique. Ça n'a pas changé. Ce sont les mêmes hommes, ce sont les mêmes apparatchiks.
Alors
comme ils sont confrontés à eux, on voit que rien n'a changé à ce niveau-là.
Alors deux questions relativement au nouveau pouvoir à Kiev. D'une part, comment est-ce que Yanukovych a pu remporter ces élections, et d'autre part, quel sens cela a-t-il pour le devenir de l'Ukraine?
Yanukovych a remporté ses élections par défaut. Bon, au-delà des chiffres en eux-mêmes, il a eu 48% des suffrages. C'est surtout le pouvoir orange qui n'a pas été à la hauteur. Alors le pouvoir orange, autant vous dire que ce n'est pas forcément ma tasse de thé sur le plan géopolitique. Bien sûr, les auditeurs qui m'ont déjà entendu sur le sujet savent que j'étais loin de les suivre dans leur orientation atlantiste. Ils connaissent mes options là-dessus. Mais à côté de ça, le pouvoir orange a très maladroitement instrumentalisé la dimension identitaire et historique. Il l'a utilisé de manière grossière, à la soviétique. Ce qui montre que tout orangiste qu'ils étaient, ils continuaient à avoir les habitus et les modes de comportement des apparatchiks, des intelligentsias de type soviétique. Et surtout, ils se sont entretués comme des écoliers de cours de récréation entre la sémillante Yulia Tymoshenko, vous savez, la belle premier ministre avec sa superbe coiffure de paysanne, et Viktor Yushchenko, qui est sûrement un très bon apiculteur et aurait fait un très bon banquier ou conservateur de musée, mais surtout pas un président de la République.
Oui, je comprends.
Donc en fait, les revanchistes de l'Est, je les appelle juste un nom comme ça, un peu... ont, en fin de compte, l'ont remporté où elle avait, ils ont pu le remporter facilement, surtout par défaut. Et aujourd'hui, bon, leur popularité qui est en train de s'effriter, d'ailleurs, très rapidement, mais comme les médias sont en train de se museler, un petit peu,
comme un modèle
un peu Poutine, bon, ben, le peuple, aujourd'hui, une bonne population n'est pas totalement, elle n'est pas totalement consciente, mais leur popularité est en train de s'effriter, et s'ils n'arrivent pas à rétablir la situation économique, ce qui est mal barré, on voit qu'actuellement, notamment dans les dernières décisions prises concernant le gaz, c'est pour favoriser avant tout les oligarques de l'Est, puisqu'en fin de compte, Yanukovych n'est que le porte-parole des intérêts des grands oligarques de l'Est, qui ont besoin d'une timide ouverture à l'Europe pour faire prospérer leurs affaires, mais pas plus. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup dans des effets d'annonce, hein, d'une part, et deuxièmement, on peut se poser effectivement la question de savoir quel est le degré de pression que les Russes ont le pouvoir de pression que les Russes ont sur Yanukovych. Beaucoup de langues disent que le dossier de police de Yanukovych est à Moscou. Or, lorsqu'on sait qu'il a été accusé de viol en réunion lorsqu'il était jeune, ce sont des accusations qui pèsent encore lourd sur tout président public, même si on est en Ukraine, mais dans un contexte particulier.
Il y a une chose qui est très inquiétante, en tout cas pour la situation ukrainienne de manière générale, mais aussi l'Union soviétique, et la Russie, c'est le problème du blé. Des tonnes de blé ont été perdues cette année par rapport aux années précédentes suite aux incendies qu'il y a eu cet été. Et la situation est assez inquiétante, et je crois que c'est un des piliers de l'économie ukrainienne avec les questions d'hydrocarbures.
Donc l'Ukraine reste toujours, malgré les ravages écologiques de l'agriculture à la soviétique, un grenier à blé, mais ses ressources sont sous-exploitées. En tout cas, bon, ce qu'il faut que bien nos auditeurs se disent, c'est vrai que beaucoup d'auditeurs qui nourrissent beaucoup d'espoir en la Russie ont vu avec beaucoup de sympathie la venue de Yanukovych au pouvoir, parce qu'effectivement, on rentre le giron russe et on s'éloigne de l'hypothèse OTAN. Je dirais que l'éloignement de l'hypothèse OTAN est sûrement une des rares choses positives de ce nouveau gouvernement. Mais à part cela, je pense que c'est un gouvernement qui va faire stagner les choses. C'est un retour en arrière. Là, on vient de réécrire les nouveaux manuels d'histoire, où en fait, on adopte une version de l'histoire plus conforme, bon, à la version soviétique, et on fait plaisir à Moscou. Enfin, on donne énormément de gages. On dilapide son industrie aéronautique en la mettant dans la main des grands industriels russes. On donne gratuitement les uranium enrichis qu'on avait encore en stock. En fait, des éléments de puissance sont fournis de manière irréfléchie entre les mains du puissant voisin. Donc ça oblitère, en tout cas à court terme, bon, ben les timides tentatives d'indépendance qui était le fait du président gouvernement, tout critiquable fut-il. Je n'ai jamais marqué mes critiques vis-à-vis de cette révolution orange qui, précisons-le, mais on pourra y revenir, ne fut pas une pure manipulation pure et simple des services de l'ONG américaine. Je crois que une vision simpliste et complotiste ne tient pas. Lorsqu'on se penche dans le cadre de ce sujet délicat, on s'aperçoit que les contentieux identitaires ont énormément joué. Et que s'il n'y avait pas eu un contentieux très vieux avec justement Moscou, et surtout un pouvoir déconsidéré et profondément corrompu, qui avait des casseroles grosses comme ça, il n'y aurait pas eu de vague orange. Tout, quels que soient les millions de dollars qui ont été déversés par les ONG, Soros, etc., il faut savoir également que les ONG russes ont déversé, elles aussi, de leur côté, ont joué leur jeu, quelque part. En tout cas, une chose qu'il faut essayer de retenir, et moi c'est un petit peu un des axes de ma réflexion actuellement, alors c'est vrai que du point de vue d'un patriote européen sincère, on ne peut pas ne pas être sensible au fait identitaire ukrainien. Il faut être cohérent quand même avec soi-même. Maintenant, c'est vrai que ça vient, il y a souvent les impératifs identitaires et géopolitiques qui se télescopent. C'est vrai que les Américains, notamment sous l'égide de Zbigniew Brzezinski, le grand stratège américain, notamment dans son ouvrage Le Grand Échiquier, avait prôné une séparation radicale de l'Ukraine de la Russie pour éviter à la Russie de redevenir un empire. La Russie, au contraire, cherche à récupérer l'Ukraine pour les raisons que j'ai énumérées précédemment, avant tout pour des raisons identitaire, mais aussi stratégique et économique. Moi, je pense qu'une troisième voie existe, celle d'annoncer haut et fort, d'un point de vue grand européen, même si ce point de vue grand européen aujourd'hui n'est pas concrètement soutenu par des structures politiques, que l'Ukraine est nôtre, que l'Ukraine est indubitablement liée à une concession politique européenne digne de ce nom, souveraine et puissante, que nous appelons de nos voeux, et je pense que ce sera un des moyens d'arrimer durablement la Russie à l'Europe. Parce qu'en fin de compte, pour la Russie, l'Ukraine, c'est un de ses bras. Et on le voit d'ailleurs régulièrement, hein, lorsque l'Ukraine a des velléités d'intégration du partenariat oriental prôné par l'Union Européenne, voire des velléités d'intégrer l'Union Européenne, la Russie dit souvent, oui, mais attention, pas sans nous, en même temps que nous. Donc on voit qu'il y a ce lien profond qui se fait, et je crois que nous ne pourrons être en mesure d'infléchir, enfin, je ne me fais pas d'illusion là-dessus, mais en tout cas, c'est des positions de principe que nous devons tenir, d'infléchir, dans le meilleur des cas, les positions russes, qu'en faisant preuve de fermeté à ce niveau-là.
Mais je comprends, il faut pas sacrifier, disons, à des petites jeux de stratégie en chambre.
Aujourd'hui, beaucoup de commentateurs, d'observateurs de cette question-là, on va sacrifier l'Ukraine à la Russie. C'est le cas notamment de Marc Rousset, qui a sorti un ouvrage remarquable sur la question russe il n'y a pas longtemps, hein, qui a tenu ce genre de propos, notamment, j'en avais discuté avec lui, notamment sur Radio Courtoisie, il y a quelques mois. Donc, je crois que non, nous ne devons pas sacrifier ces principes cardinaux, dans la mesure où je pense que l'impératif identitaire dans ce cas-là doit primer sur les intérêts géopolitiques, et ils ne sont pas d'ailleurs forcément en opposition avec ces mêmes impératifs géopolitiques.
Et si un avenir européen doit être un avenir avec les Russes, il faudra que ça se fasse aux conditions des Européens et non pas dans un contrat léonin.
La tentation de nos pseudo-élites eurocratiques, on a besoin du gaz russe, donc on est prêt à sacrifier totalement l'Ukraine, dans la mesure où justement aujourd'hui le pouvoir ukrainien est à la botte du gouvernement russe, c'est évident. En tout cas, plus que jamais, l'Ukraine, comme l'a dit Arnaud Gizinski et d'autres observateurs, reste un pivot géopolitique qui tiendra, je pense, une partie de la clé de l'avenir de cette partie de l'Europe.
Écoutez, Pascal Lassalle, merci pour cette longue explication et passionnante explication de la situation ukrainienne et de cet éclairage historique également. Je crois que vous avez deux recommandations à faire à nos auditeurs.
Oui,
un livre.
Monsieur PGL fera une chronique détaillée par écrit sur le blog de la bibliographie concernant cette question, mais deux ouvrages que je veux d'ores et déjà signaler à nos lecteurs, qui voudraient en savoir un peu plus, deux ouvrages publiés aux éditions L'Armatan. Le premier est signé Yaroslav Lebedinsky, Ukraine, une histoire en question. C'est un ouvrage qui est fait sous une forme de questions-réponses et qui a vraiment le mérite de clarifier cette histoire complexe. Le deuxième ouvrage, pour comprendre justement les problématiques identitaires ukrainiennes, notamment cette question lancinante post-coloniale que connaît l'Ukraine, c'est l'ouvrage de Mykola Ryabchuk, De la petite Russie à l'Ukraine, paru en 2003, toujours chez L'Armatan.
Encore une fois, Pascal Lassalle, merci. C'était absolument passionnant, et je sais que nos auditeurs sauront en faire leur miel, comprendre qu'on ne saurait sacrifier ces questions de principe à, encore une fois, des stratégies de géopolitique en chambre. Quelques annonces avant de nous quitter. Je vous rappelle la 15e table ronde de Terre et Peuple qui se tiendra au domaine de Grand Maison à Villepreux le 24 octobre 2010, à partir de 10h. Vous pourrez retrouver de nombreux stands, dont celui de votre émission Méridien Zéro, et également le stand du Mouvement d'Action Sociale. Merci chers auditeurs. Vous pourrez retrouver donc toutes les informations sur le blog méridienzéro.oefort.com. Et puis, je remercie encore une fois donc Pascal Lassalle pour cette magnifique intervention. Merci à Lord Sergueï et la technique sans qui cette émission ne serait pas possible. Merci à vous chers auditeurs, c'était Monsieur K à la barre. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Un mot de conclusion, Pascal Lassalle?
Slava Ukraine, Slava Yevropu, gloire à l'Ukraine et gloire à la Grande Europe.
Sur les chemins de la victoire, à bientôt.